Et c'est l'heure à présent de décortiquer l'actu Thierry Dagiral avec nos grandes voix. Ce soir, Karl Meus, rédacteur en chef du Figaro Magazine, et Philippe Mabille, directeur de la rédaction de La Tribune.
Bonsoir à vous deux, messieurs.
Bonsoir.
Merci d'être sur Europe 1 ce soir. On va parler exclusivement pendant une demi-heure du cas Nicolas Sarkozy. Avec ce livre surprise, Le temps des tempêtes, c'est sorti aujourd'hui aux éditions de l'Observatoire. Karl Meus, on est ravis de vous avoir avec nous parce que vous êtes l'homme qui avait vu l'homme.
Entre autres, oui, on était plusieurs de la rédaction du Figaro Magazine.
Pour le Figaro Magazine, donc vous allez pouvoir nous raconter un peu vos échanges avec Nicolas Sarkozy. Il faut bien dire que ce livre s'arrête juste avant la crise de 2008, donc un an après son arrivée, un an et demi après son arrivée à l'Élysée. Pourquoi ce livre ? Il prend la plume le 15 mars précisément, il écrit tous les matins, Catherine nous le disait ce matin, à 6h30. Pourquoi ce livre surprise ? Inattendu ?
Alors, il est inattendu parce qu'il n'était pas programmé et que personne ne l'attendait, mais il n'est pas surprenant au sens où Passion racontait son histoire et qu'il s'arrêtait au moment où il gagnait la présidentielle. Et donc la logique était qu'il y ait une suite. Et elle est là. Pourquoi maintenant, au fond, tout est dans le titre, Le temps des tempêtes.
Ouais.
Il résume ses deux premières années de quinquennat à comment j'ai géré des crises. Alors, des crises internationales, la Géorgie, la crise des subprimes, des crises nationales liées aux réformes qu'il a voulu passer, sur lesquelles d'ailleurs il dit « moi, j'ai pas reculé », et puis des crises plus personnelles. Et vous suivez son regard, non ? Moi, je sais gérer des crises, je sais gérer des tempêtes, je m'en suis bien sorti.
C'est ça.
Voilà.
Il y a moi et les autres. Et tout de même, quand même, Philippe Mabille, il y a des similitudes, je trouve, entre Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron. On va en parler longuement tout à l'heure. C'est-à-dire qu'ils arrivent avec une campagne très forte, avec des promesses. Et puis, d'un coup, il y a une crise. La crise de 2008 pour Nicolas Sarkozy, la crise des Gilets jaunes pour Emmanuel Macron. Ça vient tout perturber, finalement, les promesses de campagne.
Absolument, on peut faire ce parallèle, effectivement. Il faut se souvenir qu'Emmanuel Macron a été élu sur une promesse, la rupture, vous vous souvenez.
On va en parler.
Puis il y a un côté Macron avant Macron, puisqu'il voulait faire l'ouverture. Ouais. Vous vous souvenez de cette phrase de Patrick Devedjian, feu Patrick Devedjian, qui disait il était pour l'ouverture à condition qu'elle aille jusqu'aux sarkozystes. Il avait vraiment essayé de renouveler déjà la vie politique.
Ouais.
Et puis, effectivement, chez Nicolas Sarkozy, il y a deux temps. Alors, dans le livre, on ne saura pas la deuxième partie, puisqu'on le saura peut-être au troisième livre. On peut s'attendre, ce ne sera pas une surprise.
Ça.
Déjà, Passion, l'an dernier, il était un petit peu surprise. Là, celui-là, il est un peu. C'est les mémoires de Nicolas Sarkozy. Donc, il avait fait cette fameuse loi TEPA, vous vous souvenez, sur travail, emploi, pouvoir d'achat.
Ouais.
Et c'était vraiment la grande politique économique libérale de rupture, qui avait d'ailleurs plutôt bien marché, un peu comme Macron, avec sa politique de rupture et assez libérale, avait réussi à faire baisser le chômage, il faut même le reconnaître. Et puis patatras, Sarkozy, la crise de 2008, et Macron, crise des Gilets jaunes, le Covid. Il faut réinventer la politique.
Et puis pour Nicolas Sarkozy, il y a les petites phrases qui sont venues finalement polluer son message. Là, regardez, c'était le 6 novembre 2007. On est 6 mois après son élection. On est au Guilvinec avec des pêcheurs en colère.
Il est temps de faire quelque chose.
Nous, c'est toute la France. C'est toute la France qui crève.
Et pourquoi je ne suis pas là ? Je suis là. Alors attendez. Eh bien oui, écoutez, il y a les autres, ils n'avaient qu'à venir avant. Ils ne venaient pas. Moi, je viens. Descends, on peut le dire. Descends un peu. Si tu crois que c'est en insultant que tu vas régler le problème des pêcheurs.
Karl Meus, il y a des choses qu'un président ne doit pas faire, ne doit pas dire.
Oui, d'ailleurs il le reconnaît un peu dans le livre, il reconnaît que sur la forme, c'était peut-être pas l'idéal.
Mais ça vient casser le message également.
Oui, mais il ne renie pas. Ouais. Ce qu'il a voulu faire. Parce que, et ça qui est intéressant dans le livre, c'est qu'il replace tout dans son contexte. Alors évidemment, c'est sa vision à lui. Évidemment, il se donne le beau rôle. Mais il dit, voilà, moi, j'étais sur la route des États-Unis. Eh bien, j'ai voulu m'arrêter au Guilvinec. Je ne pouvais pas, comme ça, tout de suite aller aux États-Unis sans faire une halte à cet endroit. C'était important de m'adresser à eux. Et évidemment, alors on ne l'entend pas dans le sonore, ou très fugacement, il y en a un marin sur basse pagage qui commence à lui dire « enculé ». Et voilà, lui, il réagit, mais au fond, il réagit comme nous, on aurait peut-être réagi aussi. Sauf qu'il est président de la République, et comme vous dites, il ne devrait pas dire ça.
Philippe Mabille, il y a plein de petites phrases comme ça, par exemple sur l'environnement. L'environnement, ça commence à bien faire. Voilà, il dit ça, et puis il y a les faits, c'est-à-dire que, mine de rien, si on veut être honnête, il y a eu le Grenelle de l'environnement. Il a agi pour l'écologie.
Absolument, et c'est d'ailleurs assez intéressant, parce que déjà, il avait signé le pacte de Nicolas Hulot, donc c'est toujours Macron avant Macron, même si les promesses sont difficiles à tenir. Alors cette phrase, effectivement, sur l'écologie, elle a marqué parce que Nicolas Sarkozy, il a toujours été un peu écartelé entre l'économie, hein, il a quand même ce côté un peu libéral, mais un peu comme Macron aussi, un peu étatiste. Hein, quand les temps deviennent durs, d'ailleurs, on voit bien que les deux hommes qu'on prenait pour des libéraux deviennent souverainistes, deviennent étatistes ou interventionnistes. Sur la crise de 2008, il ne le raconte pas dans ce livre, mais nous, on le sait, il a été extrêmement interventionniste. Il a d'ailleurs été amené à renoncer à un certain nombre de choses de sa politique. Et donc, c'est quelqu'un qui veut aussi montrer sans doute son côté pragmatique. Ouais. Et puis, le côté capitaine tempête, hein, on l'a dit tout à l'heure avec Karl Meus, il a l'expérience et c'est un message subliminal qu'il adresse probablement à l'opinion en ces temps troublés.
On tourne les pages avec vous, Karl Meus. Il y a le Sarkozy qui torpille. Jean-Louis Debré, son ennemi chiracien, en prend pas mal. Ouais. François Bayrou, Daniel Cohn-Bendit, Laurent Fabius, à qui il dit, il écrit, hein, il fait partie des gens qui croient que tout leur est dû. Oui. Il règle ses comptes aussi à travers ce livre.
Oui, il règle des comptes, alors avec évidemment François Bayrou, qu'il ne l'a jamais soutenu, donc il dit il trahira tout le monde parce que c'est dans sa nature. Ce qui est intéressant, c'est qu'il dit c'est pas le personnage en lui-même qui l'intéresse, mais la récurrence que l'on trouve dans les ouvrages français. Donc c'est ce personnage du traître qui, à la fin, même s'il soutient quelqu'un, ne peut pas s'empêcher, le scorpion sur le dos de la tortue. Laurent Fabius, là, c'est parce qu'ils ne sont pas du même camp, évidemment. Il raconte cette anecdote où Laurent Fabius vient le voir pour se féliciter de cette réforme fabuleuse qui est la QPC, les questions prioritaires de constitutionnalité. Laurent Fabius est président du Conseil constitutionnel. Et là, Sarkozy est assez estomaqué parce qu'il a l'impression, en entendant Laurent Fabius, que c'est finalement une réforme que Laurent Fabius aurait fait passer. Sauf que, et c'est ce que raconte Nicolas Sarkozy dans le livre, c'était la réforme constitutionnelle de 2008 à laquelle tous les socialistes se sont opposés, sauf un, Jack Lang, qui a permis l'adoption de cette réforme. Donc il ne s'est pas privé de lui rappeler. Et il a vu à la tête de Laurent Fabius que Laurent Fabius n'était pas habitué à ce qu'on lui réponde comme ça.
Allez, on parle de ce livre encore dans un instant, Le temps des tempêtes aux éditions de l'Observatoire. On va parler de sa campagne, on va parler de ses discours, on va parler de la vie privée aussi qui est venue quelque part masquer un peu son action politique. Et puis on va vous écouter également au 39-21. A tout de suite.
18h41, la suite de notre débat d'actu dans ce grand journal du soir avec vous Thierry Dagiral et nos grandes voix. Ce soir, Karl Meus du Figaro Magazine et Philippe Mabille de La Tribune. On continue à parler du livre Surprise de Nicolas Sarkozy. Vous pouvez bien sûr commenter, réagir et poser vos questions au 39-21, le standard d'Europe 1. On vous attend.
Et c'est justement ce qu'a fait Dominique qui nous appelle au 39-21 de Corse.
Bonsoir Europe 1, bonsoir les grandes voix.
Alors vous, c'est intéressant parce que vous étiez à la signature de Nicolas Sarkozy cet après-midi en Corse, à Ajaccio.
Non, je n'étais pas à la signature, mais je crois qu'il a eu l'excellente initiative d'écrire ce livre, Le temps des tempêtes, la tempête immobilière qu'il a annoncée depuis, si je ne m'abuse, depuis le Var en 2008. Et qui a débouché sur une crise économique. Et lui et son gouvernement ont su justement faire en sorte que cette crise économique soit supportable.
Tout à fait. Karl Meus.
Oui, Dominique fait référence au meeting de Toulon. C'est-à-dire que dès qu'il sent que ça part un peu en vrille avec la crise des subprimes aux États-Unis et que les banques françaises commencent à pu avoir d'argent. Là, il fait un grand discours à Toulon parce que c'est ce qu'il dit dans le livre. Il y a deux éléments importants. Il dit qu'il faut absolument que je dise la vérité aux Français. Si je commence à cacher des choses... Et c'est là où ça rentre en résonance avec ce qui s'est passé sur la crise, l'épidémie. C'est que les Français ont eu l'impression qu'on leur cachait des choses. Ça, Nicolas Sarkozy a tout de suite dit « je dis la vérité ». Et deux, je vais faire en sorte que les Français ne perdent pas d'argent, qu'ils puissent, qu'on garantisse les dépôts. Et c'est là qu'il raconte, alors c'est très intéressant aussi, là, c'est, je parle sous le contrôle de Philippe Mabille qui a vécu ça de près, il dit l'administration bloquée. C'est-à-dire que quand il a dit on va garantir tous les dépôts, le premier réflexe de Bercy, c'est de dire oui, mais jusqu'à un certain montant. Alors voilà, mais si on met Philippe un montant, Mabille, c'est plus la même chose.
C'est clair qu'il y a un vrai parallèle à faire avec la crise du Covid, avec Macron qui décide, et les milliards qui pleuvent sur la France pour essayer de limiter les dégâts d'une crise où on a arrêté le pays pendant deux mois et avec des conséquences sociales
et
dramatiques.
De parole,
et
certes,
en 2008, on l'a oublié, mais cette crise qui n'était pas née d'une épidémie, mais d'une épidémie de des subprimes, donc de crédits accordés de façon complètement dingue aux États-Unis. Nicolas Sarkozy prend complètement le contre-pied des Américains. Vous vous souvenez, la faillite de Lehman Brothers qui diffuse le virus de la crise financière dans le monde entier. Il raconte, force détail, quand il a dû sauver le Crédit Local de France, il a été réveillé en pleine nuit, il avait quelques heures pour décider de mettre des milliards pour empêcher le Crédit Local de connaître le même sort. Donc c'est ça le capitaine Tempête, c'est savoir prendre des décisions. Et il faut reconnaître, c'est vrai que Nicolas Sarkozy, sur cette crise, a joué vraiment un rôle, jusqu'à le livre se termine sur la création du G20, hein, qui a été souhaité par Nicolas Sarkozy, pour essayer de remettre un ordre international. Ouais. Et puis c'est vrai que le discours de Toulon, c'est vraiment une critique du capitalisme. Et on sait que cette crise du capitalisme, elle conduisait à changer un peu de paradigme économique.
Karl Meus. Aujourd'hui, on parle du G20, ça a l'air normal, facile, mais il raconte... il faut convaincre Angela Merkel.
C'est ça.
Il y a un portrait d'Angela Merkel qui est formidable, mais qui raconte que voilà, Angela Merkel, elle a besoin de prendre du temps, elle a besoin de convaincre ses alliés. Il ne faut pas la brusquer. Donc il a appris à la contourner. Ouais. Et puis surtout, il a George Bush, qui est président, qui termine son mandat et qui dit bah « Non, mais je peux pas prendre ces initiatives-là, c'est à mon successeur de le faire. » Et Nicolas Sarkozy qui doit le convaincre, qui passe une journée à essayer de le convaincre, à dire « Mais si on ne le fait pas maintenant, après, ça sera trop tard.
» Merci à vous Dominique de nous avoir contacté depuis la Corse. Justement, vous parliez d'Angela Merkel, relation très forte, hein, il en parle dans ce livre avec Angela Merkel, la chancelière allemande, très tendre également.
Oui, alors c'est pas évident parce qu'ils ne se connaissaient pas du tout au départ. Ils sont deux tempéraments totalement opposés. On a un Nicolas Sarkozy qui veut aller vite, qui n'hésite pas à bousculer l'ordre établi, et une Angela Merkel beaucoup plus souple, qui ne peut pas prendre des décisions. Ce n'est pas le président de la République, elle est chef d'un gouvernement la plupart du temps après avec coalition, donc elle doit en référer à ses alliés. Ce sont les lenders aussi qui ont des pouvoirs.
Exact.
Et ils arrivent à nouer une relation parce que Nicolas Sarkozy comprend qu'il faut y aller doucement, donc il faut la contourner. Et elle lui dit à un moment, il y a cette page, c'est assez amusant, elle lui dit « Tiens, regarde ce film, La vie des autres. »
C'est ça, oui.
C'est
mon histoire. Il y a un échange de DVD entre eux.
Ouais. C'est moi. Parce que c'est une femme qui vient de l'Allemagne de l'Est.
Qui raconte
et elle lui dit
parcours.
Voilà ce que j'ai vécu, tu comprendras mieux. Ouais. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, parce qu'il raconte ces anecdotes-là. Il y a d'autres anecdotes avec Vladimir Poutine qui sont aussi assez impressionnantes.
Et étrangement, il est pas, la relation avec Obama, Barack Obama, n'est pas aussi bonne que cela.
Non, alors le livre ne l'aborde pas encore parce que ça s'arrête au moment du G20 2008. Donc
mais dans la conversation que vous avez eue avec lui, il était plus proche de Bush.
Oui,
hein, que
voilà.
De Obama.
Parce qu'il y a un lien qui s'est créé avec Bush lors d'un voyage aux États-Unis en 2007. Puis ensuite, voyage là qui tient vraiment à cœur à Nicolas Sarkozy quand il va à Washington faire cette visite et qu'il parle devant le Congrès. Il est assez impressionné. Obama, il raconte qu'il le voit avant. Quand il est sénateur, quand personne vraiment ne mise sur lui, bon, il se rend compte, il sent là qu'il y a quand même un potentiel et vraiment une ambition. Mais le lien n'est pas évident, parce qu'Obama ne se livre pas facilement non plus.
Un mot avant de marquer une pause sur les discours. Ça commence mal. Il y a le fameux discours de Dakar. On est le 26 juillet 2007. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez rentré dans l'histoire. Ça part assez mal. En tout cas, ce petit bout de phrase est mal interprété, mal compris.
Oui, alors il y a aussi le problème de Nicolas Sarkozy avec celui qui écrivait ses discours, hein, qui était donc Henri Guénaud.
Henri Guénaud.
Et qui a fait une carrière politique derrière, qui était un souverainiste, était quelqu'un qui avait effectivement, je dirais, une vision de la France et pas forcément sur la même ligne que celle où on pouvait imaginer qu'allait être Sarkozy. Et c'est vrai que le Sarkozy de cette époque était maître dans l'art des contre-pieds. Donc il fait l'ouverture avec les écolos, avec le Grenelle de l'environnement. Puis après, il se rend compte que ça va trop loin, donc l'écologie, ça commence à bien faire. Sur l'Afrique, effectivement, là, il fait une maladresse. Cette phrase est sortie peut-être de son contexte, mais elle est complètement...
Fait polémique.
Évidemment, elle lance la polémique. Et puis, il y a effectivement un Henri Guénaud qui a une vision très gaullienne, la grandeur de la France. Alors, avec ce côté, effectivement, parfois, ça tombe très juste. On citait tout à l'heure, tu citais le discours de Toulon. Le discours de Toulon est considéré comme un grand discours de Nicolas Sarkozy qui, effectivement, replace la présidence dans la compréhension que la crise est vraiment très grave, que potentiellement l'économie mondiale peut s'écrouler et qu'il faut prendre des décisions immédiates et qui n'étaient pas du tout celles qu'on imaginait qu'un Sarkozy pouvait prendre à cette époque-là.
Allez, restez avec nous dans un instant, on va parler de sa campagne 2007 et puis de sa vie privée également. 39-21 si vous voulez nous joindre.
Jusqu'à 20h, on va retrouver Thierry Dagiral, vous êtes avec nous, c'est le grand journal du soir. Et place aux grandes voix, c'est la dernière partie avec vos invités Thierry. Ce soir, Philippe Mabille de La Tribune et Karl Meus du Figaro Magazine.
Bien sûr, et on parle de ce livre, hein, Surprise, le temps des tempêtes, qui vient de sortir aujourd'hui, signé Nicolas Sarkozy. En 2007, il fait campagne sur la rupture, sur l'après Chirac. Il arrive au pouvoir, il fait rentrer dans son gouvernement, on s'en souvient, des gens de la gauche. Et sa base se sent complètement trahi, Karl Meus.
Pas toute sa base. Si on regarde sa cote de popularité, il a quand même toujours gardé son noyau dur.
Ouais.
Alors, Philippe Mabille citait cette fameuse phrase de Patrick Devedjian sur le thème « Je suis pour l'ouverture, mais jusqu'au sarkozyste
». Ouais.
Il revient là-dessus dans son livre. Il ne renie pas du tout l'ouverture. Au contraire, il dit si c'était à refaire...
Mais Bernard Kouchner, par exemple,
je le referais.
L'a beaucoup déçu.
Oui, mais tous l'ont déçu.
Ouais.
Mais il ne leur demandait pas de devenir sarkozyste. Au contraire, lui, ce qui l'intéressait, c'est qu'ils viennent avec leur identité de socialiste. Parce que c'est ça qui élargissait. Il a toujours considéré... Il n'a pas cette image-là auprès d'une partie de la presse et même de l'opinion. C'est qu'il a toujours considéré qu'il ne fallait pas que ce soit un seul clan qui gouverne. Il a beaucoup souffert de l'élection de Chirac, 1995, où la première décision, c'est tous les baladuriens aux mines de sel. Résultat, on arrive en 97, obligé
de dissoudre. C'est comme ça qu'il s'est créé. Il a écrit son fameux livre Libre, et c'est comme ça qu'il a pris son indépendance, justement. Et
Philippe
Mabille.
Mais il ouvrira même après aux Chiraciens, puisque Baroin rentrera en 2010.
Nicolas Sarkozy, dans son livre, il l'écrit « Je ne suis pas allé assez loin dans la rupture économique ».
Oui, je pense que ça, c'est un regret, mais on peut constater qu'il y a une forme de malédiction de l'Élysée. On dit souvent la malédiction de Matignon, mais c'est-à-dire qu'aucun président depuis François Mitterrand, et encore, il était sous la cohabitation, ne s'est fait réélire dans l'exercice de son mandat. Et c'est vrai de Sarkozy, c'est vrai de Hollande, on ne sait pas si ça sera vrai d'Emmanuel Macron pour 2022. Et effectivement, il y avait une volonté, vous citiez Chirac, Sarkozy voulait parler de roi fainéant, disait, il faut vraiment, on a eu une décennie inutile avec Chirac. Donc il voulait vraiment, je crois, bien faire. Donc ce mot de rupture qui était dans sa bouche quelque chose d'assez, je pense, sincère, ça s'est arrêté assez vite parce que, souvenez-vous, la réforme de l'université qui était portée par Valérie Pécresse, aujourd'hui la présidente de la région Île-de-France, elle a essayé de la faire, et puis à un moment donné, elle s'est heurtée et au mandarin et à l'ensemble d'un système qui disait on n'avait pas intérêt à la réforme. Donc il a essayé d'aller le plus loin possible, et puis ensuite il y a eu la crise. Donc ce deuxième temps du quinquennat, et on l'a vu, ça a été vrai pour Sarkozy entre la crise 2008, ça a été vrai pour Hollande qui n'a pas réussi toutes ces réformes, et c'est vrai aujourd'hui pour Emmanuel Macron qui est entravé par cette crise mondiale.
Un mot rapide de sa vie privée, son divorce d'abord d'avec Cécilia, il fallait mettre un terme à une situation qui pouvait virer au ridicule à tout moment. Il y a eu ensuite l'épisode bien sûr Carla Bruni, et le sentiment d'un président qui n'est pas aux affaires. Il écrit « En France, afficher son bonheur est aussi mal vu que d'afficher sa richesse ». Ça a abîmé le début de son quinquennat.
Oui, très clairement. Alors là, on évoquait les cotes de popularité. On voit bien qu'à partir de janvier 2008, sa cote de popularité dévisse. Et c'est le moment où il met en scène son histoire d'amour avec Carla. Les Français qui n'ont pas tout suivi, ils ont vu le divorce, comme il dit, ça arrive à des millions de Français, mais peut-être trouvent que c'est un peu rapide.
Ouais.
Et pourtant, c'est l'histoire d'une vie. La preuve en est, c'est que ils sont toujours mariés avec un enfant et qu'au fond, tout ça c'est fait presque naturellement, mais il ne fallait pas qu'il l'affiche et pour le coup, il le reconnaît.
Vous êtes très nombreux à nous appeler au 39-21. On va laisser la parole à Antoine qui nous appelle de Toulon. Bonsoir Antoine.
Bonsoir à tous et à toutes.
On vous écoute avec plaisir.
Voilà, j'ai été moi aussi un petit peu surpris par la sortie de ce livre. Mais ce qui me surprend encore plus, c'est la possibilité de faire un lien entre ce qu'a connu comme crise M. Sarkozy et ce qu'a connu comme crise M. Macron.
Ouais,
j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à faire le lien entre les deux. Pour moi, c'est deux univers complètement différents. Et la seule chose que je peux me dire, c'est que finalement, tous ceux qui passent par l'Élysée ont du mal à ne plus exister. Mmh. Et je trouve ça dommage de la part de M. Sarkozy de vouloir absolument exister avec des histoires qui n'ont peut-être plus rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Je ne veux pas être trop dur, mais je n'arrive pas à faire le parallèle entre les deux crises.
Merci. Merci Antoine de nous avoir contacté au 39-21. Karl Meus, on va répondre à Antoine. C'est vrai qu'il y a des similitudes. Selon vous, il y a des similitudes ? Antoine dit pas tant que ça.
Alors, Antoine a raison, les crises sont totalement différentes. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment un patron à l'Élysée réagit face à une crise. Et en l'occurrence, là, on sait que Emmanuel Macron a téléphoné à plusieurs reprises à Nicolas Sarkozy pour savoir, pour avoir des conseils. Et Nicolas Sarkozy, pour le coup, c'est ce qu'il nous a dit quand on l'a vu. Il a dit, moi, je ne veux pas donner de leçons, je n'aime pas en recevoir, donc je ne vais pas commencer à en donner. En revanche, quand Emmanuel Macron m'a appelé, je lui ai dit, voilà, moi, dans telle situation, voilà ce que je ferais. Ouais. Et ensuite, c'est à lui de décider. Il se trouve...
Mais il vous le dit à vous, par exemple, Castex, le casting de ce nouveau gouvernement, c'est quand même clairement derrière des conseils de Nicolas Sarkozy.
Alors, pas complètement. C'est pas tellement dans le casting, parce qu'au fond, les noms que Nicolas Sarkozy avait poussés, Macron ne les a pas repris. Mais c'est dans l'architecture. Ce que Nicolas Sarkozy a conseillé à Emmanuel Macron, c'est évidemment, un, de se séparer d'Édouard Philippe, pour faire un rebond, mais deux, surtout, d'avoir un gouvernement resserré et que le président soit au centre du dispositif. C'était ça, au fond, le plus important, c'était l'architecture, plus que les hommes. Mais quand même, à avoir à Matignon quelqu'un qui soit le relais immédiat. Ouais. Et on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure avec Philippe Mabille, c'est que pour qu'une réforme se fasse, il faut que le président de la République soit à 120%. S'il n'est pas à 120%, derrière l'administration, derrière les ministres, la réforme ne va pas se faire parce que ça va se perdre dans les méandres, parce qu'il y en a un qui va commencer à mettre un amendement, qui va commencer à détricoter le truc, et du coup, ça part dans les sables.
La question, elle est bateau, mais on va terminer là-dessus, 5 secondes chacun. C'est le livre d'un retour ?
Non, c'est le livre d'un recours. Je vais peut-être être un peu plus long que 5 secondes, parce qu'il nous l'a dit, voilà, c'est pas le livre de la construction d'une carrière, il ne veut pas qu'on parle de retour politique. Ouais. En revanche, quand on dit c'est le temps des tempêtes, j'ai été un capitaine qui a affronté des tempêtes et ça a marché, on se place en situation de recours tout en se disant ça peut ne pas arriver.
Philippe Mabille, 4 secondes.
Ouais, j'aime bien le mot recours, effectivement. Il faut savoir quand même que pour Nicolas Sarkozy, 2020 va être une année compliquée. Il y a sur le plan judiciaire, il y a l'affaire des écoutes qui sera jugée d'ici la fin de l'année. Il y a 2 autres affaires, Big Malion, l'affaire libyenne, avec, vous vous souvenez, l'affaire des fadettes qui ont été écoutées jusqu'à Éric Dupond-Moretti, aujourd'hui garde des Sceaux. Donc effectivement, c'est probablement un livre qui lui permet de prendre date avec les Français. Est-ce que c'est pour revenir, je ne sais pas, mais... C'est-à-dire, en politique, on dit souvent, on n'est jamais tout à fait mort.
Le livre de Nicolas Sarkozy sorti en librairie aujourd'hui. Merci à vous, messieurs.
Merci.
Merci beaucoup.
Europe 1. À suivre, Thierry de Giral.
Dans un instant, le journal de 19h, on sera au Stade de France, à 2h maintenant du coup d'envoi de la finale de la Coupe de France PSG Saint-Étienne. A tout de suite.